Aujourd'hui donc, nous recevons François Aurivel. François Aurivel est économiste, il est né en 1943, il est docteur d'État en économie. Il est actuellement directeur de recherche au CNRS, enseignant à l'Université de Bourgogne et directeur de recherche dans un institut qui s'appelle l'Institut de recherche sur l'économie de l'éducation, l'IREDU. Il est donc, parmi ses centres d'intérêt, parmi ses spécialités plutôt, c'est un économiste de l'éducation, donc il est spécialiste du coût, du financement, de l'efficacité du système éducatif, mais aussi de l'impact de l'éducation dans la société. Et là, je vais très vite, je synthétise un petit peu. Il fait beaucoup d'éducation comparée, et à ce titre, il est membre de nombreuses associations universitaires internationales, et notamment, il est vice-président depuis 1996 du comité exécutif de la Comparative Education Society in Europe, la CESE, qui d'ailleurs va tenir son congrès biannuel la semaine prochaine à Bologne à partir de lundi. Donc Monsieur Aurivel sera à Bologne à partir de lundi pour tous ceux qui veulent suivre et écouter la suite de la conférence. Parmi les nombreux, outre de nombreux articles qu'il a écrits dans des revues spécialisées, et parmi les ouvrages, je ne les citerai pas tous, j'en citerai un certain nombre, il a écrit avec Monsieur Millot l'économie de l'enseignement supérieur, qui est paru chez CUJAS en 1979. Il a aussi écrit de nombreux ouvrages sur les nouvelles technologies dans les systèmes éducatifs. Et je mentionnerai le dernier ouvrage qu'il a écrit en collaboration avec messieurs Sherman Swing et Shriver, qui est un ouvrage anglais qui s'appelle « Problems and Prospects in European Education », qui est paru chez Greenwood Press, chez Prager, Westport and London, et qui est paru cette année. Voilà. François Aurivel, je vous cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi un débat pourra suivre d'une vingtaine de minutes avec le public. Merci.
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Comme l'a dit Monsieur Leroux, je suis un économiste et donc c'est avec les yeux d'un économiste que je vais vous parler des systèmes éducatifs aujourd'hui. Le point de vue des économistes n'est pas du tout un point de vue qui revendique aucun monopole. D'ailleurs, dans le milieu des chercheurs qui font des travaux sur l'éducation, les économistes sont extrêmement minoritaires, moins de 2%, donc notre revendication à un monopole serait vaine. D'ailleurs, si on avait respecté les quotas, je ne devrais pas être ici ce soir, parce que je crois qu'il y a seulement 6 conférences sur l'éducation, et l'économie est loin de représenter un sixième des travaux qui se font sur ce domaine. Donc je les remercie vivement d'être là malgré tout. Et je voudrais aborder un certain nombre des problèmes qu'étudient les économistes dans le domaine éducatif ce soir avec vous, avec une perspective peu hexagonale, mais plutôt mondiale. Je me situe dans un courant qui a été développé ces dernières années à l'université de Stanford, qui voit dans le système éducatif un système qui se mondialise de plus en plus, et où on observe des convergences fortes d'un pays à l'autre, et on peut penser qu'un jour cette convergence finira par se réaliser. Je me sépare un tout petit peu de mes collègues sur un point précis, c'est que cette convergence que nous observons laisse sur le côté du chemin un certain nombre de pays, des pays très pauvres, qui ne rattrapent pas les autres. Et ces pays-là, au contraire, voient les écarts qui les séparent des pays les plus développés se creuser. Et c'est un des points sur lesquels je voudrais insister à la fin de ma conférence. Alors, les économistes se sont intéressés à l'éducation il y a une quarantaine d'années. Ils ont commencé à Chicago. Et les premiers travaux ont porté sur la rentabilité de l'éducation. Ils ont montré, et ça a été un axe de travail très important chez les économistes, ils ont montré que s'éduquer, c'était à la fois rentable pour l'individu, parce qu'on pouvait espérer des carrières professionnelles plus attractives, mieux rémunérées que celles des individus moins éduqués que nous-mêmes, Et d'autre part, l'éducation avait un effet sur le développement économique des sociétés, ça avait un effet d'accélérateur de la croissance économique, et toutes choses égales par ailleurs, les pays qui ont investi beaucoup dans l'éducation ont connu des niveaux de développement économique plus rapides que les autres. Donc, la thèse de la rentabilité économique de l'éducation est en gros partagée par l'ensemble de la communauté des économistes. Donc, ce n'est pas sur ce sujet-là que je voudrais attirer votre attention ce soir, mais sur des sujets un tout petit peu plus controversés. Et j'en ai retenu trois. Le premier de ces sujets, c'est qui finance l'éducation, qui devrait la financer, comment évoluent les financements, est-ce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est bien, ça va changer ou pas. Bien, premier point. Deuxième point, connaissant les financements dont disposent les systèmes éducatifs, on peut se poser la question de savoir si ces ressources sont bien utilisées. Donc je vais m'intéresser à l'analyse de l'efficacité avec laquelle les systèmes éducatifs utilisent les ressources qu'on leur donne. Et enfin, troisièmement, je passerai à un troisième problème concernant le fonctionnement des systèmes éducatifs, qui est celui de savoir s'ils réalisent une forme d'équité, s'ils permettent d'augmenter l'équité dans les sociétés, ou s'ils sont plutôt neutres par rapport à cela. Alors je commence par le problème du financement. Qui paye? Combien? Est-ce que c'est assez? Alors on distingue essentiellement trois types de sources de financement pour les systèmes éducatifs. Les sources publiques, les sources privées familiales, et les sources privées d'entreprises. Historiquement, le financement de l'éducation a d'abord été surtout privé. C'est les familles, les églises qui ont pris en charge le coût de fonctionnement des écoles, et l'État, ou les sources publiques, ne sont intervenues que plus tard. On peut dire qu'une date, une date symbolique dans la prise de conscience par les États de leurs devoirs dans le domaine de l'éducation, c'est les lois de Jules Ferry à la fin du XIXe siècle en France, qui ont institué en même temps la gratuité et l'obligation de scolarité. Alors pourquoi la gratuité, donc le financement public? Tout simplement parce que à l'époque de Jules Ferry, il y avait encore une dizaine de pourcents d'enfants d'âge scolarisable qui n'allaient pas à l'école. Ils appartenaient plutôt à des familles modestes. Et on a pensé que seul le fait de rendre l'école obligatoire, mais aussi gratuite, pouvait éradiquer l'analphabétisme restant à cette époque en France. Rien n'imposait que les niveaux d'enseignement post-obligatoire soient également financés de façon publique prédominante. Rien ne l'imposait, sinon que beaucoup de pays l'ont fait. Et là-dessus, sur ce domaine, il y a eu des politiques relativement variées dans le monde, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Mais à partir du moment où le financement public de l'éducation a été prédominant, on s'est aperçu que les dépenses pour ce secteur ont augmenté de façon assez rapide. La grande période d'augmentation des dépenses publiques, on peut la situer entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, et, disons, l'année 1975. L'année 1975 a été une année de renversement de l'évolution à la hausse rapide que l'on observait jusqu'à présent. Alors, quel était le niveau de ces dépenses? L'indicateur que les économistes préfèrent pour regardez les efforts des pays en matière de financement public de l'éducation, l'indicateur qu'ils préfèrent, c'est le pourcentage du PIB qui est alloué au système éducatif. Cet indicateur a l'avantage d'être facile à calculer et d'être comparable à l'échelle internationale. Donc, nous disposons maintenant de données assez sérieuses, comparables sur une certaine période. Nous les avons depuis au moins 1960. Et donc, ce que nous savons maintenant, c'est que entre 1945 et 1975, la part du PIB qui était consacrée à l'éducation est passée de 2 à 5 %. En 1975, le 5% a cessé d'augmenter. Il a même très légèrement baissé. Donc nous avons, depuis cette époque, depuis 1975, une stabilisation de cet indicateur à l'échelle internationale. Cette stabilisation s'accompagne également d'un phénomène de convergence, à savoir que les pays qui étaient très en dessous de ce seuil ont continué leur effort, et je pense à des pays du sud de l'Europe comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce, etc. Mais d'autres pays qui étaient montés significativement au-dessus de ce seuil de 5%, comme les pays scandinaves, l'Union soviétique, le Canada, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, donc tous ces pays qui avaient dépassé ce seuil ont plutôt tendance à revenir vers la moyenne mondiale. Donc personne n'a décidé qu'il y avait une nécessité de converger vers 5%, mais c'est un fait, les pays tendent à converger vers 5%. Il y a cependant deux exceptions à cette convergence. La première, c'est la Chine. La Chine éduque sa population avec seulement 2,3% du PIB. Il y a des tas d'explications qu'on peut donner à un comportement typique de la Chine. Elle ne dépense pas peu en ayant des résultats modestes. Elle a des résultats tout à fait acceptables compte tenu de son niveau de développement. Donc ce n'est pas un problème de désintérêt. Non, la Chine dépense peu, sans doute premièrement parce qu'elle a moins d'enfants que les pays du même niveau de développement qu'elle-même. Moins d'enfants en proportion de la population totale, bien entendu, il y a beaucoup de Chinois, mais moins la population scolarisable est petite, suite à la politique démographique qu'a suivi ce pays depuis une trentaine d'années. Et deuxièmement, la Chine a des écoles pas chères. On paye peu les enseignants et les ressources pédagogiques en Chine sont particulièrement bon marché. La deuxième région qui échappe à la convergence des 5%, ce sont les pays dits les moins avancés, les pays qui, personnellement, m'intéressent beaucoup parce que c'est eux qui représentent aujourd'hui le problème principal que nous avons à résoudre, me semble-t-il. Ces pays les moins avancés, ils sont définis par les organisations internationales spécialisées comme étant ceux où le PIB par tête est inférieur à $700. En réalité, il en existe 45 qui sont dans ce cas. Et ces 45 pays avec un PIB inférieur à $700 par tête ont en fait un PIB de $300 par tête en moyenne. Et donc ce groupe-là est lui aussi en retard. Il ne dépense que 2,5% de son PIB pour les dépenses publiques d'éducation. Si on regarde enfin les grands pays auxquels la France peut se comparer, je dirais que la France a un comportement légèrement atypique par rapport à ses partenaires. Au cours de la période 90-98, la France, contrairement aux autres, a légèrement augmenté cette part. Elle est passée de 5,1 à 5,8. Et elle est en tête des pays du G7 ou du G8, comme vous voulez. Les USA sont à 5,2. La Grande-Bretagne et l'Italie à 4,6, l'Allemagne à 4,5, le Japon à 3,5, à 3,6, et la Russie est en dessous de 4. Donc la France maintenant est parmi les pays du G7 celui qui fait un des plus gros efforts en faveur de son système éducatif. Voilà donc pour le financement public. Le financement privé. Le financement privé est malheureusement beaucoup moins bien connu que le financement public. Il n'existe pas, pour le financement privé, des organismes comme UNESCO qui collectent des données chaque année de façon à mieux connaître ce que dépensent les pays de façon privée pour l'éducation. Cependant, on commence un peu à y voir un peu plus clair depuis quelque temps grâce aux efforts de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, dont le siège est à Paris, et qui regroupe 29 pays, disons, pays riches. Et cet organisme a conduit depuis 1987 un effort pour produire des données dans les pays membres relatives aux dépenses privées des familles et des entreprises pour l'éducation. Alors, on commence à connaître les résultats de ces efforts aujourd'hui. D'abord, le résultat global, très simple. Les pays de l'OCDE consacrent 1,2% du PIB aux dépenses privées d'éducation. Donc, comme ils en dépensent 4,9% exactement de façon publique, eh bien 4,9% plus 1,2, ça fait 6,1% du PIB qui est consacré à l'éducation dans les pays de l'OCDE, dont 80% d'origine publique et 20% d'origine privée. Toutefois, contrairement aux dépenses publiques, les dépenses privées ne convergent pas. Il y a en fait deux groupes au sein de l'OCDE en matière d'efforts privés pour financer l'éducation. Un groupe minoritaire de forts dépenseurs, qui comprend essentiellement les États-Unis, le Japon, l'Australie, l'Allemagne, la Corée, essentiellement ceux-là, effectivement, pour l'OCDE. Ces pays-là consacrent entre 1,5 et jusqu'à 3% pour la Corée de leur PIB pour le financement privé de l'éducation. Et puis il y a tous les autres, la majorité, disons les trois quarts des autres pays, eux font partie des faibles dépenseurs privés. Ils consacrent un demi-point, disons, du PIB pour les dépenses privées. La France est dans la moyenne de ce groupe, de ce grand groupe. Je dirais que il n'y a pas de tendance à la convergence entre les deux groupes. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que les pays qui appartiennent au groupe de forts dépenseurs privés, minoritaires mais forts dépenseurs, sont des pays premièrement en général assez grands. Et donc quand on fait des moyennes mondiales pondérées, ils comptent pour beaucoup. Ce sont de gros pays qui ont des richesses économiques très importantes. Une deuxième remarque que je ferai sur ces pays, c'est que les dépenses privées qu'ils font sont concentrées sur un seul niveau d'éducation, à savoir l'enseignement, on peut dire post-obligatoire aujourd'hui, ou supérieur. Aucun pays dans l'OCDE ne finance son enseignement primaire et secondaire de façon privée significative. Il n'y a pas de système éducatif qui, à ce niveau-là, fasse appel de façon importante au financement privé. Les économistes ont pourtant des arguments qui justifieraient qu'il y ait davantage de financement privé de l'éducation. Je vais en citer quatre qu'on trouve dans la littérature. Le premier, c'est que là où le financement privé est important, on a un effet sur l'efficacité des écoles parce que les parents exercent un effet d'attente plus fort. Ils payent, donc ils veulent des résultats. Et les écoles sont plus fortement incitées à être efficaces lorsqu'il y a du financement privé. Le deuxième argument concerne plutôt les pays où on a des problèmes graves de contraintes budgétaires. On n'arrive pas à financer l'ensemble des besoins éducatifs du pays, et donc on fait feu de tout bois, et on voudrait augmenter les ressources publiques défaillantes avec d'autres sources, et s'il y a des ressources privées, pourquoi pas en profiter. Donc, dans ces contextes, on peut imaginer qu'un financement privé aiderait les systèmes éducatifs à se développer devant la défaillance des pouvoirs publics. Troisième argument que les économistes développent, c'est très simple. Comme on a démontré de façon tout à fait consensuelle que l'éducation était un investissement rentable pour celui qui la recevait, il peut contribuer au financement de son investissement. Et donc, l'effort qu'il fera pour se former lui sera remboursé au-delà de ce qu'il a de ce qu'il a dépensé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a introduit dans un certain nombre de pays des systèmes de prêts aux étudiants, en faisant l'hypothèse que, grâce à ces prêts, leurs revenus futurs seront plus élevés qu'ils ne l'auraient été, et ils peuvent ainsi rembourser plus tard les prêts qu'ils auraient contractés. Il y a enfin un dernier argument que les économistes ont mis en avant pour justifier davantage de financement privé, c'est un argument d'équité. L'argument d'équité est le suivant. Les niveaux d'éducation post-obligatoire, facultatif, auxquels n'accède pas tout le monde, ces niveaux-là tendent à être fréquentées de façon plus que proportionnelle par des enfants, des familles aisées. Si le financement est entièrement public, ça veut dire que le contribuable subventionne indirectement, non pas les familles pauvres, mais les familles riches, puisque c'est elles qui ont un accès privilégié au niveau d'enseignement facultatif ou non obligatoire. Donc, en demandant à ces familles aisées de payer une partie ou la totalité des coûts de leur éducation, de celle de leurs enfants, on créerait de l'équité et non pas de l'inéquité. Voilà donc les arguments des économistes pour justifier éventuellement une augmentation du financement privé de l'éducation. Ceci étant, que se passe-t-il concrètement dans le monde ? J'ai mentionné tout à l'heure les études de l'OCDE sur ces pays membres qui montrent que les pays consacrent 1,2% donc de leur PIB au financement privé. On en sait beaucoup moins, évidemment, vous en doutez, sur les autres pays, notamment les pays en voie de développement, mais on possède un certain nombre d'enquêtes ponctuelles auprès des familles qui permettent en gros de voir une chose, c'est que la propension des familles, la disponibilité des familles à financer l'éducation, même dans les cas où il y a une défaillance forte de l'État, cette propension est très inégalement répartie entre les familles. Et il y a une tendance à voir les familles appartenant aux catégories les plus fortunées de la population à avoir une certaine disponibilité à financer l'éducation, mais elle disparaît très vite avec les classes moyennes et les classes modestes. Donc, si l'on compte sur les familles pour augmenter les ressources en matière d'éducation, eh bien, on observera très certainement un accroissement très fort des inégalités. Et ce n'est pas un objectif que nous recherchons, bien entendu. Je vais passer maintenant à mon deuxième point, à savoir, est-ce que ces ressources, 6,1% du PIB, 80% public, 20% privé, est-ce que ces ressources sont bien utilisées ? Alors, un peu avant 1975, moment du retournement dont j'ai parlé tout à l'heure, un économiste américain qui s'appelle Baumol a publié un article dans lequel il s'est livré à un exercice de prospective à long terme. On était à une époque, je vous le rappelle, où le pourcentage du PIB alloué à l'éducation augmentait rapidement. Et Baumol est parti de l'observation ou de la constatation suivante. Dans une économie en croissance, en développement, les secteurs d'activité où il y a une forte croissance de la productivité du travail et où les biens ou services qui sont offerts font l'objet d'un phénomène de saturation de la part des consommateurs, eh bien dans ces pays, enfin dans ces économies, le secteur en question diminue. Sa part dans le PIB diminue. Alors, l'exemple classique, c'est l'agriculture, hein, qui produit, disons, la nourriture, l'alimentation de la population. L'agriculture, en deux siècles, est passée de plus de 50% du PIB à 4% aujourd'hui, parce que la productivité y a été très forte, la croissance de la productivité y a été très forte, et il y a eu une saturation des besoins d'alimentation des consommateurs. Mais il y a d'autres secteurs où c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire des secteurs où la productivité des institutions qui sont actives n'augmente pas beaucoup, voire baisse, et où les besoins, eux, ne sont pas saturés. Et donc, pour ces secteurs, on peut s'attendre à ce que leur part dans le PIB augmente progressivement avec le temps. Et Baumol a pris deux exemples de secteurs de ce genre, l'éducation et la santé. Alors, pour la santé, il n'a pas eu entièrement tort. Il a prédit que, à long terme, la santé consommerait 30% du PIB des nations. Bon, à l'époque où il écrivait, c'était 5%. Depuis, aux États-Unis, on observe que c'est 14%. En Europe, c'est près de 10% maintenant. On n'a pas encore, comme pour l'éducation, observé, détecté un phénomène de retournement de tendance. Donc, je ne sais pas où on ira, si Baumol aura raison à long terme pour la santé, Mais disons que sa théorie marche un peu. Par contre, à l'évidence, elle n'a pas bien marché pour l'éducation, puisque à l'époque où il écrivait, c'était 6%, et 25 ans plus tard, c'est toujours 6% du PIB qui est consacré à l'éducation. Alors, d'où vient l'erreur ? Je crois que l'erreur vient de deux choses. La première, c'est que Baumol a sous-estimé le fait que, en dépit de l'allongement des scolarités, en dépit de cela, le nombre d'enfants à scolariser dans les sociétés développées, et dans les autres aussi d'ailleurs, a beaucoup diminué. Donc il y a une compensation entre le nombre d'enfants à scolariser et le temps qu'ils restent à l'école. Deuxièmement, l'hypothèse que la productivité serait assez médiocre et serait à la baisse, cette hypothèse n'est pas vraiment vérifiée. Je vais vous présenter là quelques données. Je ne sais pas si on les voit bien. Je vais vous dire en gros ce qu'il y a. Ici, ce sont des données qui essayent d'apprécier la part du PIB que l'on consomme pour éduquer quelqu'un. Et on distingue les niveaux primaires, secondaires et supérieurs, et puis les grandes régions du monde, n'est-ce pas ? Alors vous voyez que, et on a deux années, 85 et 95, on a une petite évolution. Je n'ai pas pu aller plus haut, mais plus loin dans l'histoire, mais qu'est-ce que ça montre ? Ça montre, si vous prenez par exemple la première ligne, le total mondial, que pour éduquer un enfant dans le primaire ou dans le secondaire, c'est la même chose, il faut à peu près un cinquième de PIB. C'est pas à peu près un cinquième. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on consomme 5% du PIB pour l'éducation, et si chacun coûte un cinquième de PIB, bien on pourra mettre à l'école 25% de la population du pays, hein, avec l'argent qu'on a et le coût que ça représente. Mais vous voyez que ce cinquième, bon, il augmente très légèrement sur la période 85-95, 17,5 à 18,2. On pourrait dire que c'est une baisse de productivité. On peut dire aussi que c'est une augmentation de qualité. On n'est pas tout à fait sûr, on ne sait pas. Par contre, si vous regardez la colonne enseignement supérieur, la colonne enseignement supérieur, on était à 66% de PIB pour former un étudiant, et on est tombé à 58% à l'échelle mondiale. Donc là, dans l'enseignement supérieur, on a ce qu'on peut appeler, si la qualité reste stable, on a une augmentation de la productivité, une amélioration de la productivité. Donc c'est tout à fait inattendu. Et cette amélioration de la productivité, elle est d'autant plus grande d'ailleurs que les pays sont pauvres. Vous voyez que les pays où c'est le plus cher, c'est l'Afrique subsaharienne. Il faut plus de 4 PIB pour faire un étudiant. Bon, il en faut toujours plus de 4 maintenant, mais un peu moins, 4,8, 4,3. Mais on peut espérer que progressivement, le monde se développant, les pays en voie de développement se développant, eh bien, on aura une convergence des pays où c'est cher vers les pays où c'est pas cher en termes de prélèvement sur le PIB. Donc, sur le plan macroéconomique, en quelque sorte, sur le plan de l'ensemble des sociétés, ce que disent ces chiffres, c'est qu'on non seulement on n'a pas une baisse globale de la productivité des systèmes éducatifs, mais plutôt une augmentation de la productivité. On consomme plutôt moins de ressources sur le PIB pour former quelqu'un maintenant qu'on le faisait avant, dans les pays pauvres, dans les pays riches que dans les pays pauvres, etc. Donc on a, je dirais, un résultat plutôt encourageant sur les performances macroéconomiques des pays en matière de productivité des systèmes éducatifs. Alors pourquoi les économistes sont-ils si enclins à contester au système éducatif toute efficacité et à dire que les ressources sont très mal utilisées dans les systèmes éducatifs? Alors, ça vient en fait d'un autre type d'étude, tout à fait différent de celui que je viens de vous présenter. Ça vient d'études très nombreuses, d'ailleurs, qui comparent, en général dans un même pays, des institutions analogues et où l'on voit régulièrement, en fait, deux choses. On voit que des écoles qui ont des moyens à peu près identiques obtiennent des résultats assez différents. Et inversement, on observe que, pour des résultats donnés, eh bien, les écoles qui y parviennent peuvent avoir également des moyens assez différents. C'est vrai partout, Et ça veut dire une chose, ça veut dire tout simplement qu'il y a des écoles plus efficaces que d'autres. Il se trouve simplement que la proportion d'écoles peu efficaces par rapport aux écoles efficaces doit être à peu près stable dans le monde, ce qui explique qu'il n'y a pas de décroissance globale de la productivité des systèmes éducatifs. J'en viens maintenant à mon troisième point, qui est le point le plus délicat de cet exposé, à savoir l'équité. L'équité doit se définir par rapport à quelque chose. Alors, dans le domaine de l'éducation, on a deux grandes options. On peut définir l'équité par rapport à l'accès des individus aux moyens qu'offre une société en matière d'éducation. Et ces moyens, ben, on peut simplifier en disant que c'est le nombre d'années d'études qui sont offertes de façon gratuite aux individus. Est-ce que les individus ont accès à des nombres d'années d'études très différents les uns des autres, ou est-ce que ils sont traités de façon à peu près égale? Et puis l'autre dimension de l'équité, c'est l'équité par rapport aux résultats. On peut avoir tous accès à un même nombre d'années d'études, mais aboutir à des résultats très différents. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le système doit traiter aussi ce problème et rendre l'équité de résultats plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui? Alors, je vais d'abord parler du premier point, l'équité en matière d'accès aux moyens. Et je vais prendre l'exemple de la France. Je dirais tout de suite que dans le cas de notre pays, l'accès à une égalité de moyens a beaucoup progressé depuis 50 ans. Depuis 50 ans, qu'est-ce qu'il y avait il y a 50 ans? Il y avait une majorité d'individus qui quittaient l'école après l'école primaire, disons après 14 ans, donc avaient droit à 7 années d'études gratuites. Et puis il y avait une minorité qui continuait jusqu'au bac et puis jusqu'aux études supérieures et qui avait accès, elle, à 16 années d'études. Donc l'écart était entre ceux qui étaient accueillis pour les études longues de 16 années contre 7 pour les autres, donc on avait un écart de 16 à 7, mais qui en fait en termes de ressources était beaucoup plus grand que ça, puisque plus les années passent, plus elles sont chères. Le secondaire est beaucoup plus cher que le primaire et le supérieur est aussi plus cher que le primaire, bien qu'il ne soit pas plus cher que le secondaire. Mais bref, on pouvait dire qu'à l'époque il y avait entre ceux qui faisaient des études longues et ceux qui n'en faisaient pas un rapport de 1 à 4 en termes de moyens publics mis à leur disposition. Cette image a beaucoup changé. Aujourd'hui, la plupart des jeunes Français rentrent à l'école à 2 ans, et en sortent plutôt à 18 ans. Ils ont droit, il y a une espèce de menu commun, 16 années d'accès à l'école gratuite. Ensuite, une partie d'entre eux, 40% à peu près, poursuit, soit pour des études supérieures courtes, 2 ans, soit pour des études supérieures longues, 4 ans, disons en moyenne 3 ans. Donc l'écart est finalement entre ceux qui ont 16 ans et ceux qui ont 19 ans. Donc là, l'écart n'est plus de 1 à 4, mais de 1 à 1,2, et encore. Et encore, il est plus petit que ça pour plusieurs raisons. D'abord, le groupe d'élèves faibles, les 60% qui ne vont pas poursuivre au-delà de 18 ans, par exemple, ce groupe-là a une propension plus élevée à redoubler que les autres, donc il a plusieurs fois les mêmes années. Il a une propension plus grande à fréquenter l'enseignement professionnel ou l'enseignement technique, qui est plus cher que l'enseignement général. Bref, l'écart est sûrement inférieur à un rapport de 1 à 1,2. Donc, les différences d'accès aux moyens ont considérablement été réduites au cours des 50 dernières années. Maintenant, le deuxième point de vue que l'on peut porter sur l'équité, c'est l'équité par rapport aux résultats. Alors, ça c'est plus compliqué, et je m'avance de façon prudente. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'équité par rapport aux résultats? En simplifiant un peu, je dirais qu'il y a trois groupes d'élèves qui sortent des systèmes éducatifs. Les faibles, les moyens et les forts. Ou ceux qui ont fait beaucoup d'acquisitions, peu ou pas du tout. Alors, si je m'intéresse au groupe d'individus qui sortent du système éducatif avec les acquisitions les plus faibles, on dit que, ça varie selon les études, mais on dit qu'entre 10 et 20% des sortants du système éducatif ne maîtrisent pas de façon fonctionnelle les acquis scolaires dans la vie quotidienne et professionnelle. Donc, disons que 10 à 20% ne seraient pas équipés des savoirs fondamentaux que tout individu devrait avoir pour entrer dans la vie active. Que faut-il faire pour augmenter l'équité de résultats pour ce groupe ? Beaucoup de pays sont en train de faire des expérimentations que l'on peut qualifier de discrimination positive. C'est-à-dire, on essaye de donner plus à ce groupe, plus d'études, plus de moyens, plus d'attention particulière, de façon à en réduire la taille. En France, l'expérience la plus connue est celle des zones d'éducation prioritaire, n'est-ce pas ? Mais chaque pays a son cocktail de mesures qui essaye de régler le problème des enfants à faible niveau scolaire au moment où ils devraient sortir de l'école. Je ne crois pas qu'aucun pays n'a trouvé jusqu'à présent la recette miracle. La diversité même des expériences est finalement pour un économiste un encouragement, parce que c'est de la diversité que peut naître un jour la vérité, ou disons la formule est la moins mauvaise ou la plus efficiente pour essayer de réduire cette proportion d'enfants qui sortent des systèmes éducatifs trop faiblement équipés sur le plan des acquisitions cognitives. Mais à côté de ce groupe d'élèves faibles, il y a ce qu'on peut qualifier de marché des élites. Il y a à l'autre extrémité du spectre de chaque génération, disons environ 5% d'une classe d'âge, qui bénéficient d'une éducation meilleure que les autres. Elle est plus longue, mais elle est surtout meilleure. Et ils ont de meilleurs résultats, ils vont dans les filières les plus prestigieuses. En France, par exemple, ils vont dans les classes préparatoires aux grandes écoles, ils vont dans les grandes écoles ou dans les filières prestigieuses des universités, comme la médecine, etc. Donc il y a un groupe d'individus qui est promis à un meilleur avenir en termes de carrière, en termes de revenus, en termes de probabilité d'emploi, etc. Enfin, tous les indicateurs économiques qu'on peut trouver, ce groupe-là va entrer dans le marché des élites. Et ce groupe est-il constitué de façon équilibrée ou équitable du point de vue de l'origine sociale des individus? Bon, vous savez bien que non. J'ai cité le cas de la France, mais c'est à peu près vrai dans tous les pays. Ce groupe qui accède au marché des élites est socialement biaisé. Ils sont représentés de façon plus que proportionnelle, certaines classes sociales, les cadres supérieurs, les professions libérales, les hauts fonctionnaires, les enseignants, les chefs d'entreprise, etc. C'est un groupe socialement biaisé. Et on peut se demander si c'est légitime que ces privilèges soient financés par les contribuables, n'est-ce pas ? Donc, à l'évidence, l'équité de résultat n'est pas acquise pour ceux qui ne participent pas à ce groupe. Mais est-ce que l'école peut répondre à ce défi? Est-ce que l'école aurait les moyens d'empêcher que ça se passe comme ça? À mon avis, assez peu de moyens. Pourquoi? Parce que ce qui fait la différence entre ce groupe et les autres, ce n'est pas essentiellement les caractéristiques des écoles qu'ils fréquentent, En fait, c'est les caractéristiques des familles dans lesquelles ils sont. Ils sont dans des familles qui ont une motivation plus grande pour les valeurs scolaires, qui sont mieux informés sur le système éducatif, qui sont plus capables de faire les bons choix de filière, voire d'enseignants, qui sont plus capables d'apporter des compléments éducatifs familiaux, soit par les parents, qui eux-mêmes sont plus éduqués que les autres parents, soit par des professeurs particuliers, parce qu'on a l'argent pour payer des professeurs particuliers. En fait, on a de l'argent, on a une disponibilité à payer pour tout input pédagogique qui est susceptible de créer la différence avec les autres. Alors, peut-on lutter contre cela ? Est-ce que un système éducatif public peut empêcher que ces classes sociales se comportent comme cela et qu'on compense ce comportement par des apports publics pour tout le monde, de la même nature ? Je crois que c'est irréaliste, ça coûterait une fortune s'il fallait apporter à tous ce que les plus riches apportent à leurs enfants, et ça ne conduirait pas nécessairement au résultat recherché. Parce qu'on peut faire confiance à ces familles pour trouver les stratégies de contournement qui créeront ce petit delta de différence qui continuera à leur accorder un accès privilégié à ces filières du marché de l'élite. Je crois que si on veut améliorer l'équité en termes de résultats pour ce groupe, ce n'est pas des politiques éducatives qui devraient dominer. C'est probablement des politiques liées au rôle du diplôme dans l'accès aux emplois, peut-être une connexion moins forte entre certains diplômes et certaines carrières. Tout simplement, c'est une politique générale de redistribution des revenus qui peut corriger ce type d'équité plutôt que des politiques éducatives appropriées. Certains pays, quand même, le font au niveau des politiques éducatives. L'Angleterre, par exemple, est en train de le faire. Ça consiste simplement à rendre payant ces filières élitistes et donc à réduire le gain qu'en tirent les familles aisées, puisque ce n'est plus un bénéfice auquel elles atteignent de façon gratuite, mais elles doivent le payer. Donc on réduit l'inéquité de résultats par ce biais du paiement par les familles qui y accèdent. Évidemment, on peut également assortir ce paiement d'exonération de droits pour les enfants qui ne viennent pas de ces familles aisées, ou même des aides spécifiques. Mon dernier point concerne l'équité, non pas au niveau d'un pays comme celui que je viens de traiter à l'instant, mais l'équité au niveau international. Vous savez peut-être qu'il y a aujourd'hui 1 milliard d'adultes analphabètes dans le monde, 100 millions d'enfants d'âge scolaire qui ne sont pas à l'école. Il y a un sérieux problème à l'échelle du monde. Depuis la Déclaration des droits de l'homme de 1947, qui précisait que le droit à l'éducation était un droit fondamental de l'être humain, que tout enfant né sur la planète avait droit à une éducation gratuite. Donc depuis cette Déclaration universelle des droits de l'homme, 1947, on a eu la conférence d'Addis Abeba au début des années 60, où le monde entier s'est réuni et mobilisé pour éradiquer l'analphabétisme dans les 10 années à venir. Celle de Lagos au début des années 80, où on a refait la même chose. On va éradiquer l'analphabétisme dans les 10 années à venir. Celle de Jomtien en 1990, où on a redit la même chose. On va éradiquer l'analphabétisme en l'an 2000. On est en l'an 2000, on n'a pas éradiqué l'analphabétisme. Il y a toujours 100 millions d'enfants qui ne sont pas à l'école aujourd'hui et 1 milliard d'adultes analphabètes. Ce bilan vient d'être tiré à la dernière conférence internationale de ce type qui s'est tenue à Dakar il y a quelques mois, en avril 2000. Et prudemment, la conférence de Dakar s'est donné un peu plus de temps pour éradiquer l'analphabétisme. On a jusqu'à 2015 maintenant. Mais si vous lisez attentivement les déclarations de Dakar, vous verrez qu'il n'y a aucun plan crédible qui permette de penser que l'objectif sera cette fois atteint. Alors, quels sont les enjeux financiers de ce défi ? On peut estimer qu'aujourd'hui, bon, d'abord, je voudrais dire que les écarts de moyens entre les 45 pays les moins avancés et les 29 pays de l'OCDE, plus riches, cet écart de moyens dépasse l'entendement. Je vais vous le décrire en quelques mots. Entre ces deux groupes, l'écart de PIB par tête était de 1 à 40 en 1980. Il est de 1 à 80 aujourd'hui. Il a doublé. Ces pays-là sont toujours à $300 par habitant et les pays riches sont à 25 000. Rapport de 1 à 80. Mais ce n'est pas tout. Je vous ai dit au début de cette conférence que dans les pays riches, on consacrait 5% du PIB pour les dépenses publiques et 2,5% dans les pays les moins avancés. Donc, ils ont deux fois moins d'un PIB 80 fois plus petit. Donc, c'est un rapport de 1 à 160 en termes de moyens dont dispose chaque enfant à scolariser entre les deux groupes. Mais ce n'est pas tout. Dans ces 45 pays, le nombre d'enfants d'âge scolarisable par rapport à la population totale est infiniment plus grand que dans les pays riches. Ils n'ont pas fait leur transition démographique qui fait que la fécondité moyenne par femme passe de 7 enfants à moins de 2. Donc, il y a toujours beaucoup d'enfants à scolariser. En moyenne, 3 fois plus par rapport à la population adulte que chez nous. Donc, ce n'est pas de chaque enfant à 3 fois moins de moyens que ceux des pays développés, et le rapport n'est plus de 1 à 160, mais de 3 fois 1 à 160, c'est-à-dire de 1 à 480. Donc c'est ça la situation. Les enfants scolarisables des pays les plus pauvres ont 480 fois moins de moyens par tête que nous. 400. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Mali, quand... Nous payons un manuel scolaire 48 francs, il faudrait qu'il coûte 10 centimes pour qu'ils puissent l'acheter avec le même budget que nous. 10 centimes. Au Mali, quand nous on donne 9600 francs à un enseignant de salaire mensuel, il faudrait que ce soit 20 francs. Eh bien, ces chiffres-là ne sont pas crédibles, ils sont absurdes, ce n'est pas possible. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? J'en sais rien. Je note par exemple que les pays riches dépensent aujourd'hui 1500 milliards de dollars pour leur éducation. Dépenses publiques seulement. 1500 milliards. 1% de cette somme, c'est 15 milliards de dollars. Imaginons qu'on puisse faire avec 1% de moins. Imaginons. 15 milliards de dollars, qu'est-ce que ça représente par rapport à ces 45 pays ? Eh bien, ça fait $150 pour les 100 millions d'enfants, pour chacun des 100 millions d'enfants qui sont aujourd'hui non scolarisés. Est-ce qu'on peut, avec $150, scolariser un enfant dans ces pays? Ben, je dis oui, sans hésiter, vous voyez, mes chiffres, non, tout à l'heure. Il faut 17% d'un PIB en Afrique subsaharienne, par exemple, pour éduquer un enfant dans le primaire. Donc avec $150, c'est plus que nécessaire. On pourrait probablement même améliorer le système actuel d'éducation primaire dans ces pays si un tel transfert d'argent pouvait être fait par miracle. Je rêve en ce moment, hein, vous le savez. Par rapport à ces enjeux financiers, qu'est-ce qu'on fait? En fait, aujourd'hui, l'aide extérieure à l'éducation des pays riches vers les pays pauvres, vers les pays en voie de développement, représente en fait 5 milliards de dollars. Vous me direz, c'est pas si loin des 15 dont je parlais précédemment. Enfin, c'est loin, sans être loin. 5 milliards, malheureusement, qui ne vont pas de façon privilégiée à l'éducation primaire des 45 pays les moins avancés. Ces 5 milliards sont en fait répartis sur la planète entière, sur les 160 pays en voie de développement, et les 45 les plus pauvres n'en ont qu'une portion modeste, disons modeste. De plus, cette proportion modeste qui va aux pays les plus pauvres n'est pas prioritairement affectée à l'éducation primaire. La majorité de cette somme va à des formations secondaires, professionnelles, techniques, supérieures, à l'administration, à des experts, etc. Je dirais qu'une partie faible de ces 5 milliards va effectivement à l'éducation primaire des 45 pays les moins avancés. Et pour couronner le tout, une proportion quasi négligeable de ces 5 milliards va à l'input clé de l'existence d'écoles primaires dans ces pays, c'est payer des enseignants. L'aide extérieure refuse quasiment par principe de rémunérer des enseignants dans les pays pauvres. Donc, finalement, l'impact de l'aide extérieure sur le fait qu'il y ait plus d'enfants à l'école est, à mon avis, assez négligeable aujourd'hui. Alors, on peut arriver à nos conclusions. Je pense que sur les différents points que j'ai traités, on peut retenir quelques points. On peut retenir, premièrement, qu'il y a peu de chances, contrairement aux souhaits de certains économistes, dont je ne fais donc pas partie, qu'il y a peu de chances que le monde remette en cause le principe du financement public prédominant des systèmes éducatifs. Donc les dangers de privatisation au sens de financement privé sont à mon avis assez faibles. Deuxièmement, je dirais que les systèmes éducatifs du monde, depuis un certain temps, doivent faire avec des moyens en gros constants en termes de prélèvement sur le PIB. Et je ne vois pas d'indices, de signes qui permettent de penser que ça va changer. Donc, on a plutôt intérêt à envisager le futur, à court terme ou à moyen terme, du système éducatif, à prélèvement constant sur le PIB. Ça, c'est la deuxième conclusion. Troisième conclusion, il n'y a pas de baisse tendancielle de la productivité des systèmes éducatifs ou de l'efficience des systèmes éducatifs dans le monde. Alors, évidemment, il faut corriger cette affirmation avec, il faudrait le corriger avec un indice de qualité. Est-ce que à nombre d'années d'études égales, on apprend plus ou moins maintenant qu'avant? Ça c'est un autre problème que je n'ai pas traité ici, il y a des spécialistes pour ça, mais pour l'instant, faute de mieux, je fais l'hypothèse de stabilité des acquisitions. Quatrième conclusion, dans tout système éducatif, il y a une proportion, une certaine proportion, d'écoles moins efficaces que d'autres. Il y a un problème d'inégale efficacité des écoles, c'est clair. C'est pas contradictoire avec la proposition précédente, tant que la proportion d'écoles peu efficaces est stable dans le total. Donc la productivité macroéconomique n'est pas touchée par ce phénomène. Cinquième conclusion, en matière d'équité, on peut dire que dans les pays développés, l'équité en matière d'accès aux moyens publics d'éducation s'est considérablement améliorée depuis 50 ans. On n'est pas loin de la vraie équité en termes d'accès aux moyens aujourd'hui. Cela n'empêche pas la persistance d'inéquité ou de manque d'équité en matière de résultats. Alors, j'ai mentionné deux domaines où il y a une inéquité en matière de résultats, celui des élèves très faibles, pour lesquels, semble-t-il, beaucoup de pays font des efforts, cherchent des solutions pour faire reculer ce phénomène, mais on n'a pas trouvé, je pense, pour l'instant, la recette miracle. Il y en a un autre, pour l'accès au marché des élites, pour lequel les systèmes éducatifs font peu, mais finalement, ne peuvent pas faire grand-chose, à mon avis. Et enfin, je dirais que pour moi, le danger le plus grand qui menace le monde de demain n'est pas de continuer avec beaucoup d'énergie la lutte contre les inégalités d'accès dans nos pays. Il se creuse à l'heure actuelle, à l'échelle mondiale, un écart grandissant entre non pas entre les pays en voie de développement et les autres, mais entre certains pays en voie de développement et les autres. Certains pays en voie de développement, les 45 les moins avancés, ceux-là voient leur écart s'accroître avec le reste du monde, y compris avec les autres pays en voie de développement qui, eux, sont sur le chemin du rattrapage. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme l'histoire de la poule et de l'œuf. Les 45 pays les moins avancés ne parviennent pas à décoller économiquement parce qu'ils n'ont pas une population active éduquée. C'est une condition nécessaire de la croissance, d'avoir une population active éduquée. Mais ils ne peuvent pas non plus, faute de développement économique, à cause même de leur pauvreté, ils ne peuvent pas non plus procéder à l'éducation de cette population. Donc, c'est tout le défi que, je pense, les politiques et les générations de demain devront essayer de résoudre. Je vous remercie.
Oui, c'est oui, voilà. Bonjour. Je voulais vous demander, vous avez parlé d'impossibilité de dégager plus de crédits pour l'éducation, aussi bien en occidental qu'en Afrique. Est-ce que vous avez regardé le PIB en matière d'armement, par exemple? Il n'y a pas de démarche de manœuvre à dégager. Puis vous avez dit aussi, à un moment donné, vous n'avez pas parlé du thème qui agite la communauté éducative, les républicains et les pédagogues. En gros, est-ce qu'on a répondu au défi de la massification en France, mais on n'a pas démocratisé? Alors, il y avait le 45e congrès de la pédagogie Freinet à Rennes, 600 participants, et il semblerait qu'avec des pédagogies adaptées, parce que maintenant on a des classes de 25, des petits groupes, on aurait à faire beaucoup mieux. Donc, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a quand même des pistes intéressantes. Merci.
On répond tout de suite.
Oui.
Ça, c'est la question de l'arbitrage entre les dépenses publiques pour l'éducation et pour les besoins des armées est une très vieille question. Hein. Ça fait 30 ans qu'on préconise de baisser les dépenses militaires et d'augmenter les dépenses d'éducation. Si on a une vision optimiste du monde, on peut dire que ça s'est fait en partie. Hein. Actuellement, les budgets militaires qui étaient supérieurs au budget de l'éducation dans un très grand nombre de pays sont devenus inférieurs. Alors, en ce moment, pas au bout de nos progrès, mais je dirais que depuis 10 ans, le balancier va plutôt dans le bon sens, et j'espère de tout cœur qu'il continuera à aller dans le même sens. Dans les pays en voie de développement aujourd'hui, presque partout, les budgets de l'éducation ont dépassé les budgets militaires. En fait, c'est plutôt les budgets militaires qui ont baissé, d'ailleurs, que les budgets de l'éducation qui ont significativement augmenté. En ce qui concerne les solutions, vous avez mentionné celle de Freinet pour améliorer l'efficacité. Je ne suis pas spécialiste des solutions, hein, je les observe, moi, et je suis convaincu qu'il y en a. Mais je serai encore plus convaincu le jour où j'aurai vu des études sérieuses qui montrent que les élèves Freinet, par exemple, ont des acquisitions supérieures à celles des élèves non Freinet. Toutes choses égales par ailleurs. Mais ce genre d'études, pour l'instant, n'existe pas.
Non, c'est le monsieur derrière vous qui
devrait
avoir posé la question.
Je suis enseignant dans le technique et je me pose la question de la mesure en année de formation quand, dans nos filières, les horaires de formation ont énormément baissé. Est-ce que c'est un indicateur fiable? Merci.
Je pense. Oui, ça, c'est une approximation que je n'ai pas traitée du tout dans mon exposé, faute de temps, mais j'ai pris comme unité d'accès à l'éducation l'année d'études. C'est une unité incroyablement médiocre, effectivement. Dans le monde, la durée effective des années scolaires varie du simple au double, et même plus que ça. Donc, normalement, si on voulait être rigoureux, il nous faudrait corriger cette indicateur de durée par le nombre d'heures effectivement passées à étudier. Je pense qu'on fera un jour, hein, mais il faut nous laisser le temps de progresser. Mais je suis entièrement d'accord avec votre point de vue. Simplement, j'ai pas les données. Pour l'instant.
Une question là-bas au fond. Non, non. D'abord, une personne derrière vous. Levez-vous, monsieur, derrière avec le micro. Oui, levez-vous. Oui, oui, levez-vous.
C'est à moi ?
Oui, levez-vous.
Je voulais faire remarquer que ce n'est pas... Il y a quelque chose à considérer d'autre que la somme globale dépensée, mais la façon dont on la dépense. Je crois qu'actuellement, en France, le budget de l'éducation nationale est aussi haut qu'il l'a jamais été, peut-être plus. Est-ce qu'on peut en conclure que le but recherché a été atteint? Autrement dit, que les connaissances des élèves se sont améliorées dans l'ensemble. Et alors, on entend toujours, et à mon avis, c'est ce qui fausse tout, ce terme d'équité. L'équité, c'est quoi? C'est attribuer à chacun son dû et ne nuire à personne. Or, dès l'instant qu'on se braque sur ce mot d'équité, en le comprenant mal, en l'interprétant mal, et dès l'instant qu'on ouvre la bouche pour dire social, on se condamne aux âneries. Ça n'est pas parce que on trouve dans l'enseignement supérieur, par exemple, une grande proportion d'enfants, non pas tous, car il y a des bourses, une grande proportion d'enfants dont les parents vivent dans l'aisance, qu'il s'agit d'une injustice. Si ces enfants sont doués, c'est peut-être parce que leurs parents l'étaient aussi, et c'est ce qui leur avait permis de ne pas être dans la misère. Or, depuis bientôt 50, plus de 50 ans, presque 100 ans, on ne parle que de cela. Alors, le résultat,
rapidement, c'est que parce que monsieur Rével voudrait peut-être répondre.
Des enfants à qui on ne peut pas donner le même enseignement. C'est de la sottise. C'est vouloir, par exemple, mettre sur un ring un poids lourd avec un poids ultra léger.
Bien, nous allons laisser monsieur Rivello répondre.
Il est facile de nier, c'est nier l'effet que tout le monde connaît.
On a compris le sens.
N'importe quelle famille.
On a compris le sens de vos propos, monsieur. On va laisser monsieur Rivel, s'il vous plaît, on va laisser monsieur Rivel intervenir.
Pas nécessairement du même niveau.
Merci, monsieur Rivel.
Bon, d'abord, je vous fais remarquer que j'ai bien pris garde de ne pas dire que manque d'équité était égal à injustice. Hein, c'est deux concepts différents. Bon, en ce qui concerne l'utilisation par la France des moyens publics du ministère de l'Éducation nationale de façon efficace, est-ce que les élèves apprennent plus avec plus de moyens qu'autrefois avec moins de moyens? C'est pas à moi, économiste, de répondre à cela. Hein, certains travaux montrent que les élèves apprennent plus. Ce que j'observe, moi, c'est qu'avec plus de moyens, les élèves vont plus longtemps à l'école. Ça, c'est clair. La France est l'un des deux ou trois pays aujourd'hui où le nombre d'années, l'espérance d'années d'études que chaque enfant peut avoir est un des plus élevés. Hein, donc, du point de vue de l'accès aux moyens, la France est quand même plutôt bien placée. Où la France se différencie aussi des autres pays, c'est que c'est un des rares pays qui a plutôt décidé d'augmenter la part du financement public, le prélèvement sur le PIB, plutôt que d'entreprendre des réformes sévères pour améliorer l'efficience des écoles existantes. On préfère dépenser plus plutôt que d'affronter le problème de l'amélioration de l'efficacité des institutions existantes, ou disons de la suppression des écoles inefficientes. Alors, ailleurs dans le monde, il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens, hein, qu'on n'imite pas. Hein. Je pourrais vous en parler, mais ça prendrait un exposé.
Monsieur là, au milieu, levez-vous, merci.
Avez-vous une idée, s'il vous plaît, des transferts de moyens que représente le fait que des étudiants de pays pauvres, parmi les meilleurs, viennent suivre des études dans les pays développés et finalement ils restent, ils font leur carrière et donc ne retournent pas dans leur pays d'origine? Est-ce que vous avez un chiffrage approximatif? Parce qu'il me semble que ça vient se cumuler avec les inégalités que vous avez déjà mentionnées.
Oui. La France est sonore d'être un des pays occidentaux qui accueille beaucoup d'étudiants pauvres, sans les faire payer. Je ne sais pas, c'est de l'ordre de 100 000 peut-être, étudiants de pays pauvres qui sont accueillis chez nous. Il y a ce qu'on appelle un espèce de marché de l'enseignement supérieur dans le monde qui se développe, mais c'est plutôt un marché payant que dominent les anglo-saxons. Les Américains reçoivent près de 500 000 étudiants étrangers venant de pays pauvres en grande partie, mais ils payent la plupart, parce qu'ils viennent de pays pauvres, mais ils font partie de l'élite des pays pauvres. Donc ils sont suffisamment riches pour payer les droits d'inscription dans les universités américaines, et on observe le même phénomène en Angleterre ou en Australie. Donc la France se distingue un peu à ce point de vue-là, elle ne les fait pas payer, parfois elle leur donne même des bourses ou des aides diverses. On pourrait dire que c'est un transfert en faveur des pays pauvres, mais ça ne répond pas du tout au problème que je posais dans mon exposé. Ça concerne uniquement l'élite des pays pauvres et non pas la masse des pays pauvres. Et ça n'a aucun effet sur la masse des pays pauvres. Je dirais même que ça a peut-être un effet négatif, mais ça c'est à prouver, en ce sens que en accueillant les futures élites de ces pays dans nos universités, et on prive ces pays d'une bonne partie de leurs futures élites. Et donc peut-être que les acteurs du développement ne seront pas là, chez eux, au moment où il le faudrait, parce qu'ils sont restés chez nous.
Une question là-haut. Oui. Monsieur, merci.
Bonjour, monsieur. C'est la troisième conférence sur l'éducation à laquelle j'assiste. Et je suis assez surpris. Je pensais qu'au moins 30% du temps serait consacré à l'e-éducation, c'est-à-dire au web, etc., etc. C'est pas le cas, et je me demande si l'éducation ne serait pas une solution, en particulier au problème que vous avez posé.
J'ai pas compris.
J'ai pas bien compris. Non, je crois que nous n'avons pas bien compris la question.
Je disais que je suis assez surpris que les trois conférenciers qui ont été ici n'est pas parlé de l'e-éducation, c'est-à-dire du net, de et parce que ça aurait été, enfin, il me semble que ce serait une réponse adaptée en particulier à vos problèmes, même façon qu'à l'accès à l'éducation, etc. etc. Oui.
Non, je suis bien content que vous me posiez cette question parce qu'on me l'a déjà posée à plusieurs reprises et ma réponse par rapport au problème que j'évoquais, à savoir l'existence de 100 millions d'enfants qui ne sont pas à l'école. L'e-éducation ne peut pas apporter, ne peut pas résoudre le cas d'un seul de ces 100 millions d'enfants. Vous m'entendez ? Pas un seul. En fait, ces 100 millions d'enfants sont en général dans les endroits où il n'y a pas l'électricité ni le téléphone. L'e-éducation, pour eux, c'est au 23e siècle.
Bien. Nous prendrons encore deux questions. Monsieur là, qui parle avec la dame, mais qui devrait poser sa question. Allez-y.
Je voudrais savoir, par rapport à l'équité mondiale, c'est pour quand? Autrement dit, est-ce qu'il y a un intérêt pour les 29 pays développés que les autres se développent? Est-ce qu'il y a un intérêt économique? Deuxième question, est-ce que les technologies dites nouvelles de communication et d'éducation, la formation à distance, les économistes ont évalué son apportée, est-ce qu'elle peut être une solution pour les pays pauvres? Merci.
Bon, en ce qui concerne la deuxième question, est-ce que l'e-éducation peut être une solution pour les pays pauvres? Je pense que C'est une solution partielle pour l'enseignement supérieur. Peut-être pour le deuxième cycle du secondaire, je ne sais pas. C'est à démontrer. C'est certainement pas une solution pour le primaire, apprendre à lire, écrire et compter. Non, pas avec l'Internet. Hein. C'est prendre un marteau pilon pour apprendre à lire, écrire et compter. Il faut des livres. Et c'est pas cher par rapport aux ordinateurs. Donc, l'e-éducation, oui, pour l'enseignement supérieur, très peu pour l'éducation de base pour les pays les plus pauvres. Très, très peu. J'ai oublié la première partie de votre question, excusez-moi. Ah oui, est-ce qu'on a intérêt à ce que les pays pauvres deviennent riches? Bien sûr. On augmente les marchés, on vendra plus d'avions, de Boeing, de je sais pas quoi. Oui, on a intérêt, vraiment.
Une dernière question, monsieur, allez-y. Oui, allez-y. Allez.
Vous avez surtout parlé de la macroéconomie et probablement les études les plus fréquentes sont des études de macroéconomie dans ce domaine. Autrement dit, vous avez étudié par ces études macroéconomiques l'importance du milieu familial, l'importance du milieu social, l'importance du type d'école, l'importance du type de pays. Mais est-ce que à l'intérieur de ces facteurs, est-ce qu'il existe d'autres facteurs, notamment ce qu'on pourrait appeler le facteur surdoué, le facteur sous-doué ou le facteur mal orienté? Est-ce que ça ne gomme pas ces facteurs-là? Est-ce qu'il y a de grandes inégalités alors qu'à l'intérieur même d'un groupe qui est homogène de par l'étude?
C'est un vieux débat entre l'inné et l'acquis. Hein, je ne suis pas spécialiste non plus ce débat, mais je connais un tout petit peu. Les acquisitions des individus par le processus d'éducation, acquisitions qui les transforment, évidemment, sont plus ou moins rapides, plus ou moins grandes, selon certaines aptitudes innées. Mais on sait qu'à la fin du compte, ce qui fait un individu, ce qu'il a construit pendant son enfance, est dû de façon majoritaire à ses acquis et de façon minoritaire à ses caractéristiques innées. Alors, c'est quoi la majorité? Pour certains, c'est 65%, d'autres, c'est 80%. Il y en a même qui pensent que c'est presque 100%. Hein, je ne suis pas d'accord avec ceux-là, mais bon, peut-être qu'un jour, on y arrivera. Mais, en gros, ce qui fait un individu, c'est quand même ce qu'il acquiert plus que ce qui le caractérise à la naissance.